France Culture.
Bonjour Gérard Henriel.
Bonjour.
À Voix Nues, épisode 3, des relations de pouvoir ouvriers, immigrés, État-nation ou la socio-histoire en action, puisque nous allons parler de cette socio-histoire que vous avez largement contribué à mettre sur pied. Et nous allons y venir, bien entendu. Au mi-temps des années 80, Gérard Noiriel, vous publiez deux livres majeurs qui ont paru aux éditions du Seuil. En 86, Les ouvriers dans la société française, sur deux siècles, 19e, 20e.
Oui.
Et en 88, Le creuset français, une histoire de l'immigration en France. Ce sont deux livres qui ont vraiment fait date, qui ont été pionniers, en tous les cas pour l'histoire de l'immigration, parce que l'histoire des ouvriers, peut-être vous référiez-vous au moins à Michel Perrault, notamment.
Oui.
D'ailleurs, quelle était votre position historiographique par rapport aux travaux de Michel Perrault, qui étaient eux des travaux pionniers dans les années 60-70?
Oui, moi je me considérais comme voilà le tout à fait dans le suivi de toute cette historiographie du monde ouvrier qui avait été extrêmement importante pour ma formation, pour tous les gens de ma génération, que ce soit Yves Lequin, Michel Perrault, Madeleine Robériot, Roland Trempé. Cette génération avait donné de la légitimité à l'histoire sociale, à l'histoire des ouvriers. Et je dirais que mon livre Les ouvriers dans la société française, en fait, je l'ai écrit à partir des notes que moi-même j'avais prises sur tous ces travaux pour faire ma thèse sur les ouvriers de la région de Longwy. Et c'est lors d'une rencontre avec Michel Vinocq que je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de synthèse sur le monde ouvrier qui intégrerait tous ces apports-là. Donc c'était les débuts de la collection Point. Donc là, j'étais tout jeune, tout extérieur à cet univers parisien, etc. Mais voilà, j'ai tendu une perche et voilà, j'ai eu donc les ouvriers. C'est pour ça que je dirais que mon ouvrage sur les ouvriers en société française, c'est encore de l'histoire sociale. Et on reviendra sur la différence socio-histoire sociale, mais là c'est encore très très marqué par justement le paradigme de l'histoire sociale. Donc
avec l'histoire des mobilisations, l'histoire voilà. Des rapports de classe, la part des trajectoires individuelles.
C'est, si vous voulez, c'était un petit peu une manière de comparer aussi avec le grand historien anglais du monde ouvrier, Edward Thompson. The Making of the English Working Class, qui était vraiment notre livre de référence, qui datait des années 60, début des années 60. Et par comparaison, je voulais montrer que la formation de la classe ouvrière en France ne correspondait pas à ce modèle. Il n'y avait jamais eu de moment de formation de la classe ouvrière. C'était une classe qui avait été constamment reconstituée pour des raisons que j'explique de lutte sociale. C'est-à-dire que dans le cas français, les paysans, les artisans ont résisté beaucoup plus efficacement qu'en Angleterre à la prolétarisation. D'où d'ailleurs la nécessité de l'immigration, qui devenait comme une nécessité pour le patronat dès le 19e siècle, parce que, il y avait encore dans la population active plus de paysans dans la population active française en 1950 qu'en Angleterre en 1840. On ne mesure pas ces différences. Donc le livre, il est un peu centré là-dessus, puis après les formes de mobilisation, les apports d'immigration, etc. Donc c'était vraiment là un cadre, une synthèse qui a eu un certain écho, je dirais, notamment dans les classes préparatoires, d'après ce que j'ai pu comprendre par la suite en discutant avec des élèves, des anciens élèves.
Et qui sont devenus des historiens et qui se réfèrent à ce livre comme étant primordial pour eux.
Voilà, c'est ça, oui, ça fait partie des livres qui ont pu compter dans l'histoire sociale. Mais j'instaurerais quand même une certaine différenciation avec mon livre sur le creuset français qui date de 88, qui là introduit un nouveau schéma qui est celui de légitimer l'histoire de l'immigration dans une discipline où elle n'avait pas sa place, oui. Il faut bien le dire.
Ça, c'est pionnier. Et d'ailleurs, vous faites donc de l'immigration un sujet d'histoire, oui. Un sujet d'historiographie, alors que, et c'est ce que vous écrivez dans, je crois, le chapitre 1 du creuset français, un non-lieu de mémoire, se référant évidemment à Pierre Nora et ses lieux de mémoire. On est en 88 et les lieux de mémoire de Nora ont quelques années seulement.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que c'est mon côté un peu provocateur, que certains me disaient, mais tu veux entrer aux hautes études et tu commence par critiquer Brodel, Pierre Nora, etc. On y reviendra peut-être. Moi, c'était ma conception de la science comme vérité et puis de respect des personnes également avec lesquelles on peut être en désaccord, mais qu'on respecte justement en exprimant le désaccord. Vous voyez, ça, c'est mon idéal aussi, ma déontologie du métier d'historien. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant au niveau de l'anecdote, c'est que, après avoir publié Le Creuset français, quelques temps après, Pierre Nora m'a appelé sur mon téléphone dans ma lointaine banlieue, et on en a discuté, et il m'a proposé de contribuer au lieu de mémoire. Il y avait donc, vous voyez, une sorte de démarche, moi, qui m'a beaucoup plu, je dirais, d'ouverture, et ce qui n'empêchait pas d'avoir des différences sur des tas de points. Mais malgré tout, donc, voilà, j'ai contribué à un énième volume des lieux de mémoire grâce à cette critique que j'avais pu faire et qui avait été admise finalement, vous voyez, c'est que l'immigration avait joué un rôle essentiel dans l'histoire de la France contemporaine, mais qu'elle
n'avait pas sa place. Parce qu'elle n'y était pas dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. C'était
voilà.
Là,
et puis globalement, c'est parce qu'elle n'avait pas sa place.
Tout court,
dans même dans la mémoire collective de la France. Même moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, des collègues me disaient « mais jamais tu feras carrière avec ça ». C'était considéré, vous voyez, c'était pas un objet. En sociologie, oui, déjà, il y avait Abdelmalek Sayad, etc. Il y avait déjà une sociologie de l'immigration, mais c'était toujours perçu comme quelque chose de nouveau. C'était, vous voyez, la génération des sociologues post-coloniales, etc. Eh bien, voyez ça comme un sujet lié à la décolonisation, etc. Alors qu'on avait oublié, je dirais, l'ampleur que l'immigration avait prise dans les décennies précédentes. Alors, je précise quand même que j'étais pas le seul. Je voudrais rendre hommage aussi, enfin, à ma collègue Nancy Green, qui travaillait aussi sur cette question-là. Pierre Milza, enfin, on était un petit nombre, disons, d'historiennes et d'historiens qui travaillaient sur cette question. Mais j'ai été le premier, disons, à en faire une sorte de synthèse. Le Creuset français, c'est le titre de Michel Vinocq, d'ailleurs, qui montrait que finalement l'immigration avait une chance pour la France, selon la célèbre formule.
Oui, alors c'est important que vous le disiez comme ça, parce qu'effectivement, vous étiez déjà assez loin des discours qui voulaient opposer les Français et les étrangers. Et je pense important, Gérard Noiriel, de nous redire dans quel contexte vous avez écrit ce livre, parce que c'est peut-être pas anodin que ce livre paraisse en 1988.
Mais tout à fait, c'est là qu'on vient, je dirais, on revient à la notion pour moi d'utilité de la science. C'est qu'effectivement, dans les années 80, on voit ressurgir l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen, qui exploite à nouveau le thème de l'immigration comme repoussoir et qui construit un discours qui est traditionnel, hein, ce que j'ai montré dans mes ouvrages depuis le 19e siècle. L'extrême droite s'est toujours emparée de l'immigration pour la décrire comme une menace pour le nous français. Et selon les époques, eh bien, l'immigré qui est rejeté n'est pas le même, c'est lié à l'actualité du moment. Et donc, par rapport à ça, effectivement, quand on avait ces discours, nos ancêtres les Gaulois ou la civilisation chrétienne qui serait menacée, il y avait un déficit de recherche historique. Donc, ils pouvaient avancer leurs arguments sans être tellement contestés, puisqu'il y avait encore l'idée des racines, la vision barésienne de l'histoire, etc. Et donc, c'est là que la nécessité aussi de faire de la recherche scientifique s'imposait aussi pour des raisons civiques. C'est dans ce schéma-là que, voilà, je me suis inscrit. Et alors, effectivement, c'est une période très, très dense aussi du point de vue politique, puisque c'est aussi l'époque où il y a SOS Racisme qui se met en place, etc., dans les années 80. Et voilà, donc, on a apporté notre petite contribution. Politiquement, on peut pas dire que ça a été très efficace, hein, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, la recherche sur l'histoire d'immigration est devenue légitime. J'ai fait partie de ceux qui l'ont légitimée, disons, avec d'autres. Et après, c'est devenu un courant très riche, très dynamique. Et aujourd'hui, on a énormément de choses.
C'était quand même une forme d'immigration. C'est-à-dire que vous vous concentriez dans le Creuset français sur l'immigration étrangère. Ni oui. régionale, pourtant vous veniez de là.
Oui, oui.
Ni coloniale, disons. Voilà. Donc c'était une certaine forme et pas toutes les formes d'immigration.
Oui, parce que ça touche après à des questions de définition des mots. Moi, ce que je montre dans mes livres, c'est que le mot « immigration », il s'impose dans la langue française à la fin du 19e siècle seulement. Hein. Jusque-là, la plupart des Français voyaient la France comme un pays d'émigration. On avait encore ce vieux schéma des émigrés. Mais on découvre, sous la Troisième République, grâce aux nouvelles statistiques, etc., et grâce à l'ampleur aussi de l'immigration, notamment italienne, belge, etc., que la France est en train de devenir un pays d'immigration. Et ce mot s'impose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, immigration ? Faut pas confondre immigration et migration. L'immigration, c'est un déplacement dans l'espace, évidemment, d'individus, mais c'est aussi le franchissement d'une frontière. Donc ça pose la question de l'étranger, au sens juridique du terme. Donc, par rigueur scientifique, je dirais, dans ce travail, j'ai défini l'immigration à partir de ce double critère du déplacement dans l'espace et du franchissement d'une frontière. C'est pour ça que je ne parle pas de
la l'immigration.
Voilà, de
la différence. C'est quand même une frontière, vous l'avez expliqué.
C'est une frontière symbolique aussi.
Voilà, symbolique.
Pas, et de même, je ne parle pas des Bretons. On m'a reproché après de ne pas avoir parlé non plus des Antillais, par exemple, parce que dans ma logique, eh bien, je ne considérais que je ne pouvais parler que des populations qui avaient vécu ce double, voyez, déplacement dans l'espace et de frontières.
Qu'est-ce qui a changé, Gérard Noiriel, ce livre qui a constitué un tournant, hein, qui est à ce jour un de vos livres les plus importants? Est-ce que vous diriez, par exemple, qu'il a, même si politiquement vous dites que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, mais est-ce que malgré tout, il a constitué un nouveau regard sur l'immigration et son histoire?
Je pense, oui, parce que je me souviens à l'époque que, quand j'ai sorti le Creuset français, en rappelant l'importance énorme de l'immigration, puisqu'en 1930, la France a le taux d'immigration le plus fort du monde. Donc c'est les conséquences de la Première Guerre, du malthusianisme, de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les paysans, les artisans en France résistaient efficacement à la prolétarisation, etc. Donc on a cette réalité, et au début il y a l'incrédulité. Hein, je me souviens de débats que j'ai pu faire avec des gens, mais non, vous exagérez, c'est pas vrai, la France n'est pas un vieux pays d'immigration, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le discours, même si vous prenez Éric Zemmour, etc., ils ne diront plus la même chose que l'extrême droite d'il y a 20 ou 30 ans, mais ils vont dire « Ah oui, oui, la France est un vieux pays d'immigration, mais avant c'était des bons ». Maintenant, ça s'est déplacé entre les bons immigrés et les mauvais. Les bons, ils étaient catholiques, c'était vous voyez, les sœurs latines, tout ce que vous voulez, nos amis belges, enfin on vous trouve des tas d'arguments comme ça, par rapport aujourd'hui où bien sûr ils sont déjà, ils sont noirs, ou ils sont arabes, c'est l'islam, c'est, vous voyez, c'est la religion, etc. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens aussi, vous comprenez? Parce que quand même, le massacre le plus massif qui s'est produit en France, l'un des plus massifs, a concerné les Italiens en 1893 à Aigues-Mortes. On estime qu'on ne sait même pas d'ailleurs le nombre de morts. Environ une dizaine de morts, des disparus, plus d'une cinquantaine de blessés. Alors, une attaque comme ça de travailleurs saisonniers piémontais, etc. Donc nos amis italiens, les sœurs latines, bonjour. Mais en fait, à chaque époque, on reconstruit la figure de l'étranger en fonction des réalités du moment.
Il y a les réalités du moment et puis il y a les réalités du cadre national. Parce qu'en fait, il y a toujours un troisième terme dans vos histoires, Gérard Noiriel, c'est l'État-nation. Il y a des livres sur la nationalité, sur la République et le droit d'asile, sur le racisme, comme si vous étiez passé de l'histoire sociale, strictement sociale, à l'histoire, je ne sais pas comment le dire, nationale, identitaire. En tout cas, c'est les relations de pouvoir d'un côté et de l'autre qui vous intéressent.
Oui, c'est parce que justement le passage de l'histoire sociale à la socio-histoire s'est fait pour moi quand il y avait des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Justement, quand je travaillais sur l'immigration, c'est avec le schéma d'histoire sociale classique, si vous voulez, vous aviez le schéma un peu marxiste avec l'économie en bas, le social au milieu et puis la politique au-dessus. Mais vous n'arrivez pas à expliquer vraiment les réalités de l'immigration si vous ne prenez pas en compte la pénétration de l'État dans la société. Vous comprenez? Et c'est ça que fait la Troisième République. La démocratie, ça veut dire qu'on passe d'un État, comme on distinguait l'État et la société civile, hein, classiquement, dans la vision libérale, à une autre dimension qui est l'État pénètre dans la vie des gens, les catégorise, les identifie, et puis donc à partir de ce moment-là, ça rentre aussi comme un élément de l'identité des personnes. Et c'est ça que la réussite et l'échec, on peut dire, hein, c'est ambigu, de la Troisième République, c'est que le nous français est intériorisé à partir de ce moment-là, vous voyez. Et donc c'est toujours par référence à un nous français que va se développer l'antisémitisme, le racisme, etc. Il y a toujours cet élément national qui est déterminant. Et c'est vrai que j'ai déploré que peut-être dans les dernières décennies, depuis une vingtaine d'années, on a eu tendance à occulter les réalités nationales, alors même qu'elles pèsent complètement encore aujourd'hui dans notre actualité. On les retrouve avec Trump, avec les Chinois, etc., avec la Chine. C'est du national. Donc, si on confond le racial et le national, à mon avis, on n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi c'est efficace dans une partie de la population. Parce que cette idée des discours nationalistes ou racistes, etc., qui parlent du « nous » français, ils ont un impact sur les gens parce qu'ils disent « oui, nous sommes français ». C'est une réalité qu'on retrouve dès la fin du 19e et qui perdure encore jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour expliquer cela Du point de vue de la réception des discours politiques, pour moi, c'est la sociologie qui m'a apporté ça. Max Weber, pour moi, c'est une énorme référence, parce que justement, il explique, il parle de l'État comme un rapport de pouvoir, de commandement-obéissance. Hein, et il montre bien comment la bureaucratie, le rôle de la bureaucratie dans la pénétration dans la société, toute la notion du lien social. Quand Max Weber dit « la sociologie, c'est une discipline qui prend les individus comme atomes élémentaires ». Ça, c'est une formule qui m'a marqué. Oui, retrouver les individus derrière les entités collectives. Quand on parle du peuple, de la nation, de la race, de la religion, etc., qui sont les individus qu'on nomme ainsi, dans leur complexité, dans leur diversité? Ça a été ça, mon travail. Donc, il y a la notion de lien social, le passage notamment du lien direct, d'interconnaissance, comme on dit, au ce que Norbert Elias appelle les chaînes d'interdépendance. Le fait qu'on soit lié de plus en plus à toute une série de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on a des technologies, vous voyez, qui nous relient les uns aux autres. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., c'est encore décuplé par rapport aux époques antérieures. Mais c'est tout ça aussi qui est en germe, si vous voulez, quand on fait de la socio-histoire. C'est utiliser les outils qui nous viennent de la sociologie, depuis Weber, Durkheim, Norbert Elias,
oui,
Pierre Bourdieu, etc.
Durkheim et Elias qui sont très présents déjà dans le creuset français.
Oui, par exemple.
Je
m'appuie beaucoup sur eux parce que Durkheim, si vous voulez, dans le débat de la fin du 19e siècle, autour de la question du national, de l'antisémitisme, etc., il a une démarche qui s'oppose à celle de Renan. C'est justement le débat Durkheim, quand Renan définit la nation comme le plébiscite de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens? Alors que Durkheim, lui, prend une analyse qui privilégie la notion de l'État, de la transmission par la médiation de la culture, de l'école, etc., etc. Donc il y avait là une boîte à outils dont je me suis servi à chaque fois quand j'avais des choses à expliquer. C'est pas par rapport à des théories dont je me serais imprégné, c'est par rapport à des outils que j'ai utilisés après. Parfois, on y reviendra sans doute de façon contradictoire, c'est-à-dire parfois j'ai pu utiliser des outils pour critiquer les auteurs qui avaient eux-mêmes mis en œuvre ces outils. Mais voilà, c'est en fonction de mon travail empirique, j'ai toujours privilégié, j'ai toujours dit d'ailleurs aussi à mes étudiants, il faut privilégier le travail empirique. Vous êtes confronté à une recherche et pour comprendre, expliquer ce que vous avez en face de vous, vous devez avoir une boîte à outils. Et à vous de chercher, d'où l'interdisciplinarité. Parfois, vous allez trouver vos outils chez les anthropologues, chez les politistes, chez les sociologues, etc. Et c'est avec ça que vous allez expliquer l'objet que vous avez pris pour étude.
Donc c'est ça, en fait, la socio-histoire, c'est la rencontre entre différentes disciplines, notamment la sociologie et l'histoire. Vous êtes devenu en 1994 directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et puis en 1995-96, vous étiez membre associé de l'Institute for Advanced Studies de Princeton. C'est là que vous développez ce concept de socio-histoire. Vous n'êtes pas le père du mot, hein, socio-histoire, d'autres l'ont utilisé avant vous, mais vous le développez, vous en faites une collection aux éditions Belin avec le politiste Michel Auferlé, et vous vous en êtes expliqué, Gérard Noiriel, dans un petit repère La Découverte en 2006, Introduction à la socio-histoire. Alors, je vais vous demander d'expliquer, puisque c'est un grand mot pour vous, expliquer. Qu'est-ce que vous entendez précisément par la socio-histoire?
Mais justement, vous savez, il y a les questions de labels. Les labels, parfois, voilà, il y a une fonction stratégique. Si vous voulez rassembler un certain nombre de gens qui ont des points communs, qui travaillent ensemble, etc. C'était aussi le cas. C'est-à-dire que la période que vous évoquez, c'est aussi la période où j'ai été le cofondateur de la revue Genèse.
Absolument.
Genèse, sciences sociales et histoire, où on s'est rassemblé une équipe avec des gens qui sont toujours des amis d'ailleurs, vous voyez. Donc, vous parliez d'Alban Bensa, Michel Auferlé, il y a Christian Topalov, etc. Enfin, on était Florence Weber, etc. Un certain nombre de collègues qui étaient liés entre eux par une même démarche, c'est-à-dire, pour ça le titre de la revue, Genèse, hein, l'historicité du présent, c'était un des éléments qui nous reliait, et puis après des emprunts à différentes disciplines. Donc, à l'intérieur de la revue Genèse, qui existe encore, maintenant c'est une nouvelle génération évidemment, tout le monde n'était pas au départ socio-historien, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce label. Donc c'est vrai que ça m'a rapproché plutôt de Michel Auferlé. Et la socio-histoire, si vous voulez, se différencie de l'histoire sociale, parce que l'histoire sociale, si vous voulez, qui existait depuis le début du XXe siècle, hein, c'était pas une nouveauté, c'était le social. Vous voyez, moi je voyais ça comme une vision un peu floue. Le social, qu'est-ce que c'est? Ça voulait dire souvent aller vers les classes sociales, aller souvent vers les classes populaires. Enfin voilà. Alors que socio-histoire, c'est un label qui définit des compétences disciplinaires, comme on va dire biochimie, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire la biochimie, il faut être à la fois compétent en biologie
et chimiste. Et là, il faut avoir des connaissances en sociologie, voilà, et en histoire, ou en sciences sociales et en histoire.
En sociologie, principalement.
Précisément sociologie.
Oui, oui, oui. Parce que vous savez, même, bon, c'est l'histoire du mot science sociale, Durkheim, et je sais que Bourdieu aussi défendait cette vision-là, d'une science sociale au singulier, la science sociale, et pas les sciences sociales. La science sociale, c'est une vision unitaire qui va intégrer autour de concepts qui sont au départ produits par des sociologues, hein, parce que si on prend Durkheim, son neveu, il s'appelait Marcel Mauss, considéré comme nos plus grands anthropologues, etc. Et pourtant, voilà, il y a des points communs dans ces démarches-là. Donc, une compétence en sociologie, à partir des principes fondateurs de la sociologie, dont je parlais tout à l'heure, qui est le lien social, voilà, le retrouver les individus, les atomes élémentaires, etc., combiné à de l'histoire, avec une compétence d'historien aussi. Ce que souvent les sociologues n'avaient pas de leur côté. Parce que, voilà, c'était, faut aller aux archives, il faut connaître les fonds d'archives, etc. Donc, il y avait là l'idée de former une génération qui soit compétente dans les deux domaines. Et comme il se trouve que j'occupais un poste un peu stratégique, puisque je m'occupais du DEA de sciences sociales, eh bien, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour contribuer à former des gens qui aient cette double compétence et qui pouvaient être élargis après à la science politique. Après, il y a des définitions de disciplinaires. Par exemple, Michel Auferly, il a formé beaucoup de gens à la socio-histoire dans le cadre de la science politique pour expliquer le politique, vous voyez, ou les questions politiques à partir des concepts venant de la socio-histoire. Donc ça pouvait être appliqué sur différents domaines. Et donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de développer auprès d'une nouvelle génération. Mais moi, j'étais quand même toujours assez réticent par rapport à une conception trop molle de l'interdisciplinarité. Vous savez, souvent, on se dit interdisciplinaire. Quand on est spécialiste de rien, on se dit spécialiste de tout. Donc il faut aussi se méfier. Donc moi, j'avais une conception quand même plus resserrée de l'interdisciplinarité. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc c'était une interdisciplinarité quand même qui maîtrisait deux ou trois champs de recherche, pas plus.
Vous avez distingué l'histoire sociale et la socio-histoire. Quand vous écrivez, Gérard Noiriel, votre monumentale histoire populaire, une histoire populaire, hein, c'est important le « une histoire populaire de la France de la guerre de Cent Ans à nos jours » en 2018, qui a été rééditée en collection texto en novembre 2025 chez Talendier. Est-ce que cette histoire populaire, c'est pas une autre façon de dire histoire sociale ? Où est-ce qu'elle se situe, cette histoire populaire ?
Alors justement,
dans le champ historiographique.
Justement, si vous voulez, cette histoire populaire de la France, effectivement, que j'ai mis une dizaine d'années à écrire, hein, donc c'est aussi un travail de longue haleine.
C'est 900 pages, hein, c'est vraiment...
Voilà, et je n'étais pas continu, hein, c'était par des moments, etc. Mais c'est aussi le problème, parce qu'au départ, c'était une commande, par les éditions Agone, donc petit éditeur, mais très engagé, hein, politiquement, etc.
Très à gauche, pour le dire clairement.
Voilà, voilà, qui avait publié aussi Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, la version française. Et c'était l'idée.
En 2003, hein, traduit. C'est un livre qui date de 1980 aux États-Unis.
Voilà, c'est ça.
Traduit
voilà.
En 2003.
Et
en
c'était
français.
L'idée qu'on n'avait pas d'équivalent en français. Donc, en France, comme j'avais écrit, moi, vous voyez, les ouvriers de la société française. Voilà, ils m'avaient sollicité, puis j'y connaissais par ailleurs, etc. Mais là, pourquoi j'ai mis autant de temps, c'est que je ne pouvais pas faire comme Howard Zinn. Si vous voulez,
une histoire par le bas, il disait.
Voilà, voilà. C'était un modèle, hein, pour moi, comme Thomson, etc. C'est des gens qui avaient beaucoup compté dans ma formation. Mais si vous voulez, on ne pouvait plus écrire une histoire populaire, j'irais dire, dans les années 2000, comme on en écrivait une dans les années 1970.
Pourquoi ?
Parce que, j'allais dire, malheureusement, Howard Zinn, c'est quand même les années 70, l'après 68, avec une sorte d'optimisme quand même. Et puis aussi l'idée que, évidemment, à cette époque-là, l'histoire des minorités ou l'histoire des classes populaires était encore marginale dans le champ historiographique. Donc il y avait tout un travail à faire, qu'il a contribué à faire, que toute génération, un travail que toute cette génération a fait, qui consistait à légitimer, que ce soit aussi l'histoire des femmes, l'histoire des minorités, l'histoire des classes populaires, etc. Aujourd'hui, aller dire que ce serait nouveau de parler de ça, ça me semblerait un peu présomptueux. Parce que justement, cette génération a apporté tout ça. L'autre problème, c'est que dans une histoire populaire conçue comme une histoire de ceux d'en bas, il y a des limites. Les limites, c'est une logique de réhabilitation. Or, dans ma perspective, moi je voulais, vous avez compris, c'est un peu une obsession chez moi, étudier aussi les formes de domination qui peuvent exister au sein des classes populaires. Parce que pour moi, le lien social, c'est une relation de pouvoir qui a deux facettes. Une facette domination, mais aussi une facette solidarité. Et si vous voulez, Durkheim, Weber, voilà les deux. Durkheim, c'est plutôt la solidarité, hein, dans son travail. Il a beaucoup insisté là-dessus. Solidarité organique, c'est même la base de sa sociologie. Alors que Weber, c'est plutôt la domination. Donc, vous voyez, dans ma problématique, j'ai essayé de combiner les deux dimensions, mais ce qui est commun, à mon avis, c'est les relations de pouvoir. C'est-à-dire le monde social, les sociétés, depuis le début de l'humanité jusqu'aujourd'hui, elles sont construites sur des relations de pouvoir. C'est pas une dénonciation, c'est une observation, parce que ça peut produire le meilleur comme le pire. Quand vous avez, Durkheim prend cet exemple-là, les parents, quand il faut qu'ils éduquent leurs enfants, ils exercent un pouvoir sur leurs enfants. Mais ce pouvoir est nécessaire pour les éduquer, pour qu'un jour, ils deviennent des adultes. Alors, tous les parents ne le font pas correctement. Hein. Je veux pas, surtout, je serais mal placé pour aller idéaliser le rôle de l'éducation par les parents. Mais malgré tout, c'est la logique, je dirais, du pouvoir qui peut aboutir à une éducation. Donc, je dis ça parce que le mot pouvoir, il peut être vu toujours de manière péjorative. Moi, on m'a parfois, des gens de droite, disant globalement, dit « Oui, vous prétendez faire de la science, être objectif, mais en fait, regardez, vous nous parlez toujours de domination, de pouvoir, etc. » Mais on peut être objectif et parler de ça, puisque c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça que, pour en revenir à mon histoire populaire de la France, moi, le populaire, je l'ai conçu comme une relation de pouvoir. C'est pour ça que le mot populaire, pour moi, il ne définit pas les classes populaires. C'est le peuple au sens politique du terme, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui sont intégrés dans un même État national. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je me limite à la France. Le peuple, on peut l'imaginer au niveau mondial, bien évidemment, et on pourrait trouver des situations infiniment pires que ce qu'on connaît en France. Mais voilà, moi, je travaille dans un cadre qui est celui de la France, et donc j'analyse le peuple, l'histoire populaire, comme des relations de pouvoir qui concernent ce territoire et cette société qu'on appelle la France. C'est aussi pour ça que je commence avec Jeanne d'Arc, parce que c'est à ce moment-là que l'impôt royal se met en place, et l'impôt joue un rôle décisif dans la construction de la souveraineté de l'État. Donc c'est le point de départ que j'ai pris, on pourrait en trouver d'autres, mais pour moi c'était justifié du point de vue de ma problématique, du rôle fondateur de l'État dans la construction d'une société autour de relations de pouvoir, à la fois comme domination et comme solidarité.
C'est très intéressant, Gérard Noriel, parce que vous ouvrez tout un champ de questions pour le quatrième épisode de Nos Avoies Nues, aussi bien sur l'objectivité, savant et politique, comment on fait pour rester scientifique tout en ayant des convictions politiques, bien entendu, sujet d'actualité. Et justement, dans les sujets d'actualité, il se trouve que vous avez aussi travaillé sur les colères populaires, les mouvements sociaux, les gilets jaunes, par exemple. Donc, je voudrais aussi vous demander quel rapport vous avez à l'actualité, l'histoire passé-présent. Ça sera le sujet de nos conversations pour le prochain épisode. Et puis, les frontières du peuple, c'est-à-dire est-ce que les élites, les intellectuels sont inclus dans ce peuple que vous venez de définir ? Bon, toutes ces questions, on les posera demain.
Très bien.
Si vous êtes au rendez-vous.
Oui, je pense que je serai encore là.
Merci beaucoup et à demain. À suivre l'épisode 4, le métier d'historien. C'était À Voix Nue avec Gérard Noiriel, réalisation Assia Weber, prise de son Frédéric Héroux et Maëlle Larfassour, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.